Ici l'ombre.
Le grand entretien. Par Laurence Bolomé.
Bonjour, bienvenue sous cette tente. Nous entamons déjà le troisième et dernier grand entretien de Concertina. Le dernier pour cette année, on espère. Bienvenue à vous sous ce chapiteau à Dieu le Fils. Et à toutes ceux et celles qui nous écoutent sur les ondes radio, et notamment celles d'Ici l'ombre. Et bonjour à vous, Myrène Patamia.
Bonjour, Laurence.
Merci de nous avoir rejoints à l'occasion de Concertina. Avec vous, nous allons découvrir une autre forme d'enfermement, celui que l'on peut vivre ou subir, en hôpital psychiatrique. Alors, le parcours est un peu chaotique, on va le prendre petit à petit. Mais j'ai une première question pour rassurer un peu tout le monde. Aujourd'hui, 2026, comment allez-vous ?
Je vais très bien. Merci, Laurence.
Eh bien, c'est important. Votre parcours, c'est 4 hospitalisations, la première à l'âge de 25 ans. À ce moment-là, vous avez un travail dans la gestion de comptes d'une grande entreprise. Vous êtes mère de 2 enfants. Qu'est-ce qui se passe pour arriver à cette première hospitalisation ?
Eh bien, je fais ce qu'on appelle, ma deuxième fille avait 1 an à peu près environ, je fais ce qu'on appelle une décompensation maniaque avec délire de persécution.
Il faut nous en dire un peu plus. Vous avez l'impression que tout votre entourage est contre vous, par exemple ?
Oui, alors en fait c'était plus large que ça. J'avais l'impression de vivre dans un complot. Il y avait des caméras chez moi, il y avait la télé qui me parlait, les magazines qui me persécutaient. J'entendais même, j'avais des hallucinations auditives. J'étais dans la terreur complète.
Et c'est venu d'un coup ?
Alors, aujourd'hui, je peux dire non. Mais moi, ça m'est tombé dessus à cette époque comme une bombe sur la tête.
Ça veut dire qu'il y avait des signes précurseurs, mais que vous n'avez pas capturé,
oui.
Et votre entourage non plus, finalement.
Non.
Et c'est seulement à votre 4e hospitalisation qu'on vous donne un diagnostic.
Tout à fait.
Vous pouvez nous en parler ?
Oui, bien sûr. Ma 4e hospitalisation, ça a été à ma demande. Et surtout à la demande de mon ex-mari, qui me reconnaissait plus, depuis un moment, hein, mais j'alternais entre les phases où je suis bipolaire. Donc, du coup, j'ai reçu ce diagnostic à ma 4e hospitalisation. Je faisais des hauts et des bas, très, très importants.
Avec des hauts très hauts et des bas très bas,
très
j'imagine.
Bas. Hein. Voilà, ouais. C'est ça. Du coup, c'est ma psychiatre qui me suivait en CMP qui m'a dit un jour, en m'engueulant un petit peu, elle était énervée, je lui disais « mais qu'est-ce que j'ai ?» Et elle me dit « mais bon sang, vous êtes bipolaire !» Ah bon. Et moi, ça m'a beaucoup rassurée, ça mettait des mots sur les mots.
Alors j'allais dire, le fait d'avoir un diagnostic fait que finalement, c'est une maladie qui a un mot, ce n'est pas juste de la folie. Ben, j'imagine qu'à un moment donné, on se dit « mais je suis complètement dingue ».
Alors, moi, j'ai longtemps cru que j'étais complètement folle, en fait. Je me suis auto-stigmatisée avec une désestime de moi-même qui était très, 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 très importante.
On parle d'hospitalisation sous contrainte.
Oui.
Vous êtes un peu dans un intermédiaire. Donc, la dernière, c'est vous qui choisissez. Mais les 3 premières, comment ça se passe ?
Ça a été la demande d'un tiers parce que je n'avais plus mon discernement, je faisais des délires. Et puis, ma 3e hospitalisation, c'était pour une dépression très sévère. Donc, ça a été à la demande d'un tiers. Je n'ai jamais été contrainte physiquement. J'ai été enfermée dans une chambre, je n'ai jamais été contrainte mécanique.
Parlez-nous quand même de cette chambre fermée.
C'est terrible parce qu'on est dans une terreur, enfermée dans sa terreur. C'est assez impressionnant. Et en même temps, on vous enferme, vous avez l'impression d'être complètement incompris dans votre délire, quoi.
On imagine bien que c'est pour vous protéger de vous-même.
Oui, ça m'a vraiment mis en sécurité, parce que voilà, je pouvais faire n'importe quoi à tout moment. Voilà, j'avais perdu tout discernement.
Tous les repères. En même temps, c'est pour votre bien, mais ça, vous le savez qu'après, finalement, vous pouvez le dire aujourd'hui. Bien sûr, j'ai été hospitalisée pour mon bien, mais sur le moment, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Sur le moment, c'est compliqué. Et puis, il y a des bribes. Il y a des bribes quand même de souvenirs flous. Voilà, c'est oui.
Ce diagnostic de bipolaire qu'on vous annonce sur une petite rage quand même, comme vous l'avez dit, votre psy qui vous dit, bon, enfin c'est normal, vous êtes bipolaire, mais vous ne le saviez pas avant. Pourquoi on ne vous l'a pas dit avant? Parce qu'elle a l'air de le savoir si elle vous le dit sur ce ton.
Pourquoi on ne me l'a pas dit avant? Je ne saurais pas le dire. Je pense qu'à ce moment-là, on ne disait pas trop les diagnostics. Moi, je vous parle d'il y a 20 ans.
Les années 2000, hein, à peu près.
Des années 2000, 2000 jusqu'à 2005. Je pense qu'avant, on voulait peut-être pas, peut-être on voulait me protéger, peut-être, mais on disait pas les diagnostics. On diagnostiquait pas comme ça.
En même temps, diagnostic dit, alors comme vous le disiez, ça met des mots sur les mots MAEX, mais ça permet aussi une médication plus claire. Peut-être que vous l'avez prise cette médication avec plus de bonne volonté.
Tout à fait. Avant mon diagnostic a été le point de départ d'une acceptation peut-être d'un médicament. Ça n'a pas été le déclic. Il y a eu un laps de temps, un chemin à faire, mais ça a été le début d'une acceptation de prendre un médicament, chose que je n'avais pas fait jusque-là.
Alors, on va parler tout à l'heure du futur, de l'après cette période, mais j'aimerais encore qu'on parle de la famille. Mm-hmm. Parce que vous l'avez dit, vous aviez deux enfants à la première hospitalisation. À 28 ans, vous en avez un troisième.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui se passe quand on est hospitalisé, qu'on lâche ses enfants un peu? Comment est-ce qu'on se sent?
Ça a été terrible pour moi, ça a rajouté une désestime de moi-même en tant que maman, parce qu'on crée des ruptures avec ses enfants. Ça a été vraiment terrible, cette culpabilité en fait.
De ne pas les accompagner.
Voilà, c'est ça.
Ils étaient pitchounets. Hein,
ils étaient pitchounets, ils avaient pas plus de 10 ans en fait, la première.
Puisqu'on parle de famille.
Sur la dernière hospitalisation. Ouais.
Puisqu'on parle de famille, j'imagine que la famille a beaucoup aidé, mais est-ce qu'elle pour s'occuper des enfants, mais est-ce qu'elle comprenait? Parce qu'on comprend peut-être une maladie physique, psychique, c'est plus compliqué.
Non, oui, tout à fait. Tout à fait, il y a eu beaucoup de déni. Mais non, en fait, Myrène, tu n'es pas folle. Voilà, il se passe d'autres choses. Oui, beaucoup de déni dans la compréhension de la part de certains membres de ma famille. Oui.
Mais est-ce qu'on vous disait, par exemple, mais bouge-toi un peu, sors, va marcher dehors, ça te fera du bien, enfin, ce genre de conseils un peu inutiles.
Ça oui. Ah oui. Ça oui, bien sûr.
Des conseils inutiles.
Mais viens marcher en pleine dépression, bah, viens marcher, pourquoi tu ne veux pas marcher? Mais en fait, je ne pouvais pas, tout simplement.
Avez-vous l'impression, vous parlez des années 2000, qu'en 2026, l'accompagnement psychiatrique a un peu évolué?
Il y a des choses qui ont évolué. Je vois peut-être un petit peu chez PEPS, par exemple, les interventions aux premiers épisodes psychotiques qui aident les jeunes, en fait. En 2026, il y a l'émergence des premiers secours en santé mentale. Il y a un vrai courant qui n'est pas installé partout, mais il y a un vrai courant. Il y a la père aidance qui émerge. Voilà, moi, je suis optimiste quant à l'évolution, même s'il y a énormément de choses à faire encore.
Alors, vous avez nommé la père aidance, on va en parler. Vous étiez finalement, j'imagine, pendant cette période, complètement tournée sur vous-même pour essayer de vous en sortir. Et soudain, avec la père aidance, vous êtes tournée vers les autres. Quel a été le déclic? Après, on va peut-être définir la père aidance. Mais comment a été le déclic de « je sors de moi pour aller vers les autres »
Le déclic, ça a été... Vous savez, moi, j'ai toujours voulu... j'ai pas fait les études que j'aurais voulu faire. J'ai pas fait forcément les métiers que j'aurais voulu faire. Et moi, j'étais beaucoup tournée vers l'autre et l'aider. Et en réalité, je m'intéressais beaucoup, quand j'étais stable, à finalement ce qui se passait au Québec, sur la notion de rétablissement, sur l'émergence de la paire aidance là-bas. Et puis quand ça a émergé un petit peu en France, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, parce que je veux qu'on déstigmatise les troubles psychiques, vraiment, et même les troubles neurodéveloppementaux. Et je veux porter l'espoir, je veux dire, mais voilà, on peut traverser l'enfer, mais on peut aller vers la lumière.
La paire aidance, donc paire PAIR, c'est l'accompagnement par quelqu'un qui vit la même chose ou qui a vécu la même chose, mm-hmm. de personnes qui ont un trouble, en l'occurrence psychique pour ce qui vous concerne.
C'est ça, en se servant de son savoir expérientiel.
Mm-hmm. Alors, ça m'amène quand même une idée. Je me dis, mais est-ce que de ressasser avec les personnes que vous accompagnez, c'est pas... perturbant pour vous? Est-ce que vous risquez pas de retomber dans votre histoire?
Non. Alors, je pense que il y a un recul assez fait sur ma propre histoire et d'accompagner l'autre, c'est juste enrichissant, en fait.
Vous vous enfermez pas, vous ouvrez la porte aux autres,
c'est
en fait.
C'est ça. Mmh.
Vous avez participé à des groupes de parole aussi, c'est bien juste?
Quand j'étais
avant d'être
malade,
père aidante, ouais, quand vous étiez malade.
Je suis toujours malade, hein, je tiens à le préciser. Oui, j'ai intégré un groupe d'entraide mutuelle qui s'appelle Iceberg. J'y suis restée un an et demi, ça a été un tremplin énorme. Quant à la déstigmatisation de moi-même, ce sentiment de honte, ce sentiment de n'être qu'une folle, en fait. Mm-hmm. Rencontrer d'autres personnes qui ont la même pathologie m'a beaucoup aidée.
Avec une difficulté à vous exprimer dans ce groupe, si je me souviens bien ce que vous m'avez dit quand on a préparé.
Oui, bien
sûr. Vous avez mis du temps à vous exprimer.
Bien sûr. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 20 ans, 15 ans, 17 ans...
Et ça, évidemment, votre parcours vous aide à faire parler peut-être les autres, c'est-à-dire à les amener vers quelque
oui,
chose d'un peu plus...
Oui, la paire aidance libère beaucoup la parole des personnes, mm-hmm. voilà, de nos pères, en fait.
Et que disent les professionnels, les psychiatres qui peuvent accompagner ces mêmes personnes que tout d'un coup un non-professionnel? On rappelle quand même que vous avez un diplôme en paire aidance,
donc
vous êtes une professionnelle.
Voilà.
Mais j'imagine le corps médical... Qu'est-ce qu'il dit de votre intervention? Est-ce que c'est une concurrence? Est-ce que c'est
non.
un apport supplémentaire?
C'est un apport supplémentaire, c'est un plus, c'est complètement un complément, voilà. Des psychiatres, et puis c'est un autre regard aussi, et c'est important.
Et comment est-ce qu'on fait la moyenne, la distance pour dire, ben, je m'appuie sur mon savoir et mon expérience pour dire à l'autre, t'es pas tout seul, et ne quand même pas imposer sa propre histoire à l'autre, parce que tout problème psychiatrique est différent, toute vie est différente.
Oui, il faut faire... comment on fait? Eh bien, du coup, il faut se servir, il faut être très à l'écoute, très à l'écoute, très très à l'écoute.
Dites-moi un peu plus.
Eh ben, en fait, je pense que comment on fait pour accompagner ces personnes, soit on est en écho pertinent avec leur histoire,
Mais peut-être que ça m'amène une autre question. J'ai l'impression que si vous avez votre vécu qui aide l'autre à comprendre le sien, vous êtes comme un miroir. Mais est-ce que parfois, ils n'ont pas envie de miroir, finalement?
Oui.
Et est-ce que vous, vous n'avez pas eu envie de miroir à un moment donné?
Oui, ce qui est intéressant avec le miroir de la paire aidance, c'est que la personne peut se sentir complètement comprise. Et ça, c'est important. Par contre, il faut faire attention à ne pas se confondre avec la souffrance de l'autre.
Et à comprendre qu'elle peut être différente de la nôtre.
Exactement, parce que chacun a son histoire, chacun a son parcours. Et ça, c'est très important de le respecter.
Ce qui demande, j'imagine, puisque vous le disiez, je suis encore malade, mais vous êtes sous médicaments,
oui,
vous êtes
sûr.
Stabilisée. Mais ça demande un travail incroyable entre le je et l'autre, entre j'utilise ce que je suis, mais je ne l'utilise pas trop. Enfin, j'imagine que c'est assez complexe. Qu'est-ce que vous avez appris peut-être dans vos cours qui ont amené au diplôme pour justement trouver cette distance ?
Ce qui m'a permis dans mes cours de faire cette distance, c'est, je crois que c'est de se mettre un cadre en tant que père aidant, de se mettre des limites. On touche beaucoup à l'intime de soi, on touche beaucoup à l'intime de l'autre, et se mettre un cadre, c'est vraiment essentiel.
La paire aidante, ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail individuel. J'imagine qu'on ne parle pas du tout de la même manière à l'un ou à l'autre, donc ça vous demande une gymnastique mentale, je dirais, d'être adapté, de réagir ou pas réagir, de dire des choses plus ou moins fortes ou plus ou moins douce en fonction de la personne.
Tout à fait.
Après un rendez-vous, vous êtes explosé, exténué.
Non, ça va.
Non, c'est vrai.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment aussi transmettre l'espoir. Mais cet espoir ne peut pas être donné, vous voyez, ah bah oui, mais regarde, moi. On n'est pas des modèles. On est juste un exemple de rétablissement parmi tous les rétablissements.
Et vous travaillez aussi en groupe, comme vous l'avez fait comme patiente, vous organisez
aussi
des groupes?
Oui, on fait des ateliers, on fait des groupes, on fait des groupes de parole, oui, bien sûr.
Ce métier, parce que vous parlez vraiment de votre métier,
oui, oui.
C'est un métier, il est reconnu officiellement ou n'importe qui peut être père aidant?
Il y a des pères aidants bénévoles, hein. Il y a de la pères aidance bénévole, mais il est reconnu. Il a un diplôme, en tout cas.
Par rapport à l'enfermement, qui est quand même la thématique ici, vous avez le sentiment que c'est vraiment une alternative ou une prévention, peut-être? C'est-à-dire, si on arrive à aider la personne sur son parcours, elle va peut-être éviter l'internement psychiatrique?
Ça peut être préventif et ça peut être, moi je dirais que c'est nécessaire en fait.
Que ce soit avant ou que ce soit après.
Ouais.
Ouais, ouais. Votre parcours hospitalier, vous en parlez avec les personnes?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ça dépend des personnes. Quand c'est nécessaire en fait, quand c'est pertinent, C'est un échange aussi, la paire aidance.
Vous avez l'impression de vous être retrouvée dans ce métier. Vous disiez au début, j'aurais voulu faire des études dans le social, on va dire, ou dans le regard sur l'autre. Vous avez l'impression de vous être retrouvée vous-même dans ce métier,
fait. Je retrouve une place que j'ai cherchée longtemps dans la société, dans la vie. Bien sûr, je retrouve une place, complètement.
La gestion de compte, c'était pas votre place?
Non.
On a parlé de vos enfants tout à l'heure, de la rupture, de la difficulté, de la culpabilité. Comment vont-ils aujourd'hui?
Ils vont très bien.
Donc, ils ont une vingtaine d'années, hein,
ouais,
en gros.
Ouais, ouais. 22, 24 et 27 ans. Ils vont très bien, avec leurs hauts et leurs bas, bien sûr, comme tout un chacun.
Bien sûr.
Et j'ai beaucoup de chance de les avoir. Déjà petits, c'était une ressource fondamentale. Et du coup, aujourd'hui aussi.
C'était une ressource qui présente, c'est-à-dire qu'ils venaient vous voir, ou vous étiez, comme vous étiez à l'isolement dans une chambre, j'imagine qu'il y avait des moments où vous ne pouviez pas les voir. Comment vous avez affronté le fait qu'ils entrent aussi en psychiatrie?
Eh bien, quand j'ai eu le droit, ils ont pu venir me voir à l'hôpital.
Et ça, c'est difficile.
Et ça nécessite beaucoup d'explications.
Pour les enfants.
Pour les enfants, pardon.
Qui était tout petit, on le rappelle, il y a 25 ans.
Donc oui, oui, oui.
Même à celui de 2 ans, vous arrivez à expliquer, maman est malade, elle est à l'hôpital. Mmh. Enfin, comment ça se passe? Parce que vous êtes la personne qui doit les rassurer et vous êtes celle qui est en faiblesse, entre guillemets.
Au moment de l'hôpital, c'est pas moi qui les rassurais. Hein. Très concrètement, c'est plutôt mon entourage.
Oui, vous n'étiez pas en mesure de le
non.
faire. Oui, tout à fait. Vous l'avez évoqué, hein, votre message, mais vous aviez... Non, je vais quand même rester, excusez-moi, avant votre message final, mais je vais quand même rester sur les enfants. Une de vos filles travaille dans le domaine, finalement, enfin, ou en tout cas a été impactée positivement par votre parcours pour ce qu'elle fait maintenant. Vous pouvez
oui.
nous en dire deux mots?
Mais tout à fait, mes enfants aujourd'hui sont très fiers de leur maman. Par rapport au métier que je fais. Et surtout, Lorraine, ma plus grande, qui a été une aidante. Mais mes autres enfants aussi, parce que, vous savez, tout le côté affectif, l'amour, ça aide. Lorraine a été encore plus aidante et elle a passé ses premiers secours en santé mentale. Et est devenue dans son entreprise, alors je ne sais pas comment on dit, mais référente en santé mentale dans son entreprise.
Ce qui est rassurant, c'est aussi de savoir qu'il y a des entreprises qui ont des référents en santé mentale.
Mais ça, oui, c'est tout à fait nouveau. Super.
Ouais. Vous avez le sentiment, parce que vous dites avec beaucoup d'émotion,
oui.
qu'ils sont fiers de leur maman.
Oui, oui, oui.
Vous avez le sentiment qu'ils n'étaient pas fiers ou qu'ils avaient peur d'en parler quand vous étiez en hôpital ou
Non, mais souvent, quand maman était triste ou maman était en colère démesurée, forcément, ils étaient inquiets.
Mmh. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle de ce message. Vous voulez déstigmatiser la maladie mentale, ça veut dire quoi?
Ça veut dire faire tomber les préjugés, ça veut dire donner de la connaissance sur tous les troubles psychiques, pas uniquement bipolaires. Hein. Moi, je parle de la schizophrénie, je parle des troubles borderline, je parle de tous les troubles psychiques. C'est vraiment donner de la connaissance.
Donner de la connaissance pour éviter les peurs?
Oui, c'est ça.
Parce qu'on peut imaginer qu'on peut avoir peur face à quelqu'un qui fait une décompensation maniaque, comme vous l'avez dit.
Oui.
Et on peut être inquiet ou pas oui. savoir quoi faire ou avoir peur pour soi-même.
Bien sûr, bien sûr.
Et comment vous le faites, ce message? Comment vous le transmettez? Parce qu'on a bien vu que vous travaillez avec les personnes souffrantes, mais le message de déstigmatisation ou l'envoi de connaissances dans la population, on va dire, comment vous le faites?
Eh bien, il faut intervenir en amont dans les écoles. Là, moi, personnellement, je ne le fais pas, mais il faut vraiment qu'on intervienne en amont dès le plus jeune âge.
On ose raconter la maladie mentale en école.
Voilà, qu'on ose la raconter, ouais, mm-hmm. et qu'on dise des choses justes.
Comme quoi? Quel serait le message, les mots vrais?
Un schizophrène n'est pas forcément... une personne qui souffre de schizophrénie, pardon, n'est pas forcément dangereux pour les autres. Il est avant tout dangereux pour lui-même, vous voyez. Qu'un bipolaire n'est pas un lunatique. Voilà. Qu'une personne qui souffre d'un trouble bipolaire a un dérèglement de l'humeur, en fait.
C'est terrible parce que quand vous liez bipolaire à lunatique, on a vraiment l'impression d'une incompréhension totale.
Oui.
Il y a des gens qui disent que vous êtes lunatique.
Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Mm-hmm.
La santé mentale des enfants, on a le sentiment, alors on l'a beaucoup dit depuis le Covid, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons, on a le sentiment d'en parler de plus en plus. Vous avez le sentiment, vous, qu'elle est réellement plus difficile? La santé mentale, puisque vous intervenez aussi dans les écoles,
oui.
pas vous-même, mais les instituts. Ouais.
Oui, oui, oui.
Et oui. qu'est-ce qu'on en fait, ça?
Pas réellement grand-chose.
Malheureusement. Mm. Vous pourriez être père aidante pour un enfant ou pour un tout jeune?
Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question pour un tout jeune enfant. Peut-être, oui.
Vous verriez, votre expérience de maman, dans ce cas, pourrait fonctionner,
oui.
puisque vous vous appuyez sur votre expérience.
Oui, peut-être.
On vous réinvite l'année prochaine pour en savoir plus sur est-ce que vous vous êtes intéressé aux enfants. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui nous écoutent sur les ondes des radios et aux personnes qui sont ici sous ce chapiteau?
Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce qu'on touche la folie, qu'on vit la folie, qu'on est des êtres différents, et que vraiment on peut s'en sortir, avec un accompagnement, et puis surtout un travail sur soi. Que peu de gens font, voilà.
Travail, je fais une petite parenthèse, mais travail psychique, mais aussi oui. Physique. Vous m'avez dit que vous avez entamé, après la quatrième hospitalisation, vous avez travaillé sur votre hygiène physique, sport, nourriture, etc.
Oui, alors surtout la psychothérapie m'a aidée avec la sophrologie. Au niveau du sport, je suis pas très, je suis pas très sportive.
Vous me l'avez dit pourtant.
Hein. Oui. Hygiène de vie, je pensais au sommeil beaucoup. Mm-hmm. Sommeil beaucoup, l'alimentation aussi, évidemment. Et voilà.
Sommeil qui est un des problèmes qu'on peut avoir dans la décompensation maniaque, par exemple.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, vous arrivez à stabiliser votre sommeil.
Voilà.
Ce qui vous donne la meilleure force pour vous occuper des autres. Merci en tout cas de nous avoir parlé de cette alternative ou ce complément, je dirais plutôt, à l'hôpital psychiatrique quand on parle de maladie mentale. Merci de nous avoir aussi enlevé certains préjugés grâce à votre témoignage. Je voulais aussi remercier la technique qui nous accompagne ici, Morgan, Quentin, Manon, Djibrine, Emilien, et tous les autres qui sont autour de la table, là, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont accompagné ces 3 jours. Merci beaucoup. Le temps passe très vite.
Merci,
je suis désolée.
Merci, Laurence.
Myrène Patania, merci.
Ici l'Ombre. Le grand entretien. Par Laurence Bolomé.
Ah, on ne veut plus m'ouvrir le micro. J'ai assez parlé pendant 3 jours. Non, simplement pour vous dire qu'on vient de dire au revoir aux auditeurs et auditrices des différentes radios qui nous écoutent en direct et que vous pouvez rester parce qu'il va y avoir un...